Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître d'aujourd'hui, épître aux Romains de Saint Paul, qu'il adresse à cette jeune communauté chrétienne, est pour nous d'un enseignement extrêmement riche et en même temps pas bien compliqué, j'allais dire, à comprendre. C'est un véritable hymne à la charité fraternelle. C'est un développement de cette phrase si déjà présente dans l'Ancien Testament et ô combien renouvelée par notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer Dieu par-dessus tout, certes, mais le deuxième élément, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et il semble bien que ce qui est déjà co-naturel à l'homme, à savoir d'aimer son prochain comme soi-même, il y a cet instinct de sociabilité qui est là en nous, qui n'a pas été complètement détruit par le péché originel, eh bien notre Seigneur va véritablement le renouveler. À l'exemple de cette eau qui est dans les jarres de pierre, eh bien cette eau va être transformée en vin. Cet aspect de sociabilité qui est le nôtre, eh bien va être littéralement transformé dans le vin de la charité. Aussi, notre Seigneur, et Saint Paul après lui, va pouvoir nous demander beaucoup plus quant à la charité fraternelle, parce que justement, il nous donne cette possibilité d'accomplir ce précepte de charité d'une manière absolument incroyable, d'une manière qui dépasse l'entendement, qui dépasse la seule raison humaine, et même nos propres forces humaines laissées à elles seules. Aussi, eh bien, ce grand miracle, si on le met en relation avec l'Épître, c'est de transformer ce qui est de l'ordre de la nature en ce qui est de l'ordre de la surnature. L'eau des purifications devient le vin, l'instinct de sociabilité devient, j'allais dire, la charité. Évidemment, la grâce n'annule pas la nature, et donc les deux restent présents dans notre cœur, mais la charité va surélever, va purifier, va en même temps transformer cet instinct qui est en nous et allié à cette raison. Mais ce n'est pas seulement cela sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, même si c'est bien de la charité dont on parle. Cette charité qui est décrite en saint Paul, plus ou moins en détail, nous voyons la Sainte Vierge véritablement dans cette belle évangile, et bien dans ce bel évangile, la mettre en application de manière très concrète. Le rôle de la Sainte Vierge va être pour nous un modèle de charité surnaturelle. Au départ, elle est celle qui est invitée. C'est elle qui, nous dit l'évangéliste Saint Jean, est invitée. Ensuite seulement vient Jésus. Pourquoi ce décalage, on pourrait dire Jésus, à la primauté d'honneur? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Jésus qui est mentionné en premier? Bien parce que justement, le miracle de Cana va faire en sorte que ce qui est de l'ordre de la vie cachée en notre Seigneur, eh bien, notre Seigneur va inaugurer sa vie publique. Lui qui était comme deuxième après la Sainte Vierge, avec ce miracle, passe à la première place. Voilà pourquoi, à la fin de l'Évangile, il est dit qu'il manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui. Désormais, c'est notre Seigneur qui passe à la première place. Mais pour qu'il passe à la première place, il a fallu celle qui a toujours été à ses côtés, plus ou moins cachée, mais qui ici est néanmoins bien présente, la Sainte Vierge. C'est elle qui va comme le pousser à accomplir ce qu'il est venu faire sur la terre, par charité. Et cela va se produire, j'allais dire, d'une manière toute petite, d'une manière qui est trois fois rien. Et la charité est souvent engagée dans les petites choses, mais qui permettent ensuite de faire de grandes choses. Ici, la Sainte Vierge, au départ, est celle qui est pleine de grâce. Ne l'oublions jamais, on ne peut vivre de la charité que si on est plein de grâce. Sinon, eh bien, on n'aura pas l'attention nécessaire, on n'aura pas la perspicacité nécessaire, on sera finalement très égoïste. Seule la charité nous permet l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux besoins de l'autre. Notre-Dame est celle qui vit profondément de la charité. Elle est celle que l'ange à l'Annonciation a appelée, non pas du nom de Marie, mais du nom de pleine de grâce. Sa présence est aussi une grâce. Sa présence est aussi une forme de charité. Elle a accueilli de manière très volontaire, elle a accueilli ce qui est une invitation au mariage. Est-ce que cela lui faisait plaisir d'aller à ce mariage? On n'en sait absolument rien. Peut-être que certaines fois, cela est plus ou moins joyeux, cela est plus ou moins agréable, même si c'est une noce. Voilà, il y a peut-être d'autres occupations, et peut-être que la Sainte Vierge aurait bien voulu rester cachée, comme c'est le cas souvent dans l'Évangile, dans la majeure partie de sa vie, cachée à Nazareth, ne pas sortir à toutes ces mondanités. Et pourtant, elle va venir à cette noce. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que le mariage, eh bien, est une réalité sociale. Et que si c'est une réalité sociale pour les mariés, cela l'est aussi pour ceux qui les entourent, pour ceux qui vont prier avec eux, pour ceux qui vont les entourer de toutes sortes d'attentions. Le mariage n'est pas seulement l'amour de deux personnes, c'est aussi une réalité sociale, parce que cela fonde une cellule de base de la société qui est une nouvelle famille. Voilà pourquoi la Sainte Vierge se rend à ce mariage et elle est sans doute heureuse d'y aller, au moins pour prier, au moins pour entourer de sa prière fervente les nouveaux époux. Sa présence est donc une grâce, sa présence est donc un acte de charité de sa part extrêmement profond. Mais plus que cela, elle ne va pas être passive. Sa présence va être une présence active. Et nous le voyons, puisque sa charité, eh bien, ne va pas s'arrêter à sa simple présence. Elle va aller jusqu'à distinguer quand il y a un manque, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et elle est sans doute triste de ce que le vin vient à manquer. Parce que dans une fête, eh bien, il fallait ce vin qui dure, parce que la fête chez les Juifs, eh bien, dure plusieurs jours même. Eh bien, voilà, ils sont en manque, cela va attrister cette fête, cela n'est pas bon. On pourrait dire, mais cela n'a rien à voir, cela n'a rien à faire dans un mariage. Qu'est-ce que cette petite chose extrêmement matérielle vient faire à côté de cette chose extraordinairement spirituelle que ce sacrement de mariage? Eh bien non, il y a véritablement ici une volonté de la part de la Sainte Vierge de s'occuper aussi des petites choses. La charité passe par l'attention aux petites choses, parce qu'elle détermine beaucoup plus que le reste. Et remarquez bien dans Saint Paul, à la fin de l'Épître, il est bien dit « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, soyez tristes, hein, pleurez avec ceux qui pleurent. » Il faut être à l'unisson de ceux avec qui l'on vit. Sinon, c'est un manque de charité. Sinon, cela veut dire qu'on ne pense qu'à soi. Être joyeux avec ceux qui sont dans la joie, eh bien, cela est parfois difficile parce qu'on peut être triste intérieurement. Et néanmoins, il ne faut pas faire voir cette tristesse. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est être compatissant avec ceux qui sont dans la misère, alors que peut-être on n'a aucune difficulté, nous, personnellement, alors que peut-être on n'a pas du tout envie de pleurer, au contraire, il nous arrive de grandes et belles choses, on a plutôt envie d'être dans une joie éclatante. La Sainte Vierge se met au diapason de ceux avec qui elle est. Elle voit qu'il va y avoir une tristesse, elle veut l'éviter. Ce jour est un jour de joie, elle veut prolonger cette joie. Alors, cette délicatesse va lui permettre de parler à notre Seigneur. Après son attention, elle voit ce qui manque, elle va délicatement dire à notre Seigneur « Ils n'ont plus de vin ». Et voyez combien la parole de notre Seigneur, elle sait bien que si elle demande du vin, notre Seigneur n'a pas des caisses et des caisses de vin à Nazareth et il faudrait retourner aller les chercher, ce n'est pas cela. Elle sait bien ce qu'elle demande. Ils n'ont plus de vin, comment faire? Aussi, est-ce véritablement demander un miracle? Et elle ose demander ce miracle, mais elle ne va pas demander ce miracle de manière explicite, elle va juste, de manière très implicite, signaler seulement une situation désastreuse. Ils n'ont plus de vin. Grande délicatesse de la part de Notre-Dame. Mais aussi son humilité eh bien, va être bien présente ici même. Donc, grande délicatesse de la part de Notre-Dame, et aussi, eh bien, elle va faire juste une simple constatation. Aussi, son humilité, eh bien, ne va pas être prise en défaut. Hein, elle va accepter la remarque de notre Seigneur, qui est juste de dire, eh bien, que me veux-tu, femme? Hein, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Elle pourrait prendre cela comme étant véritablement un refus. Mais elle sait bien que notre Seigneur procède parfois de manière étrange, j'allais dire, à la raison humaine. Ici, notre Seigneur donne cette réponse étrange pour nous, effectivement. Qu'y a-t-il entre toi et moi, hein? Que me veux-tu, femme, hein? Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas encore l'heure de la grande révélation de ma passion, de ma mort et ensuite de ma résurrection. Eh bien, Notre-Dame va accueillir cette réponse en toute humilité. Elle ne va pas se fâcher, elle ne va pas essayer de lui faire comprendre qu'en fait, il faut quand même faire ce miracle. Elle va tout simplement, eh bien, accueillir cette réponse de notre Seigneur, étrange à ses yeux. La charité accueille aussi les manières de faire de l'autre, qui ne sont pas forcément les siennes. On ne comprend pas forcément, et néanmoins, on accueille. Néanmoins, on accepte cette différence. Mais elle ne va pas en rester là encore une fois, elle va aller plus loin, parce qu'elle a confiance en notre Seigneur, et que la charité fait que lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, il y a une confiance immense dans cette personne. Et on sait, elle sait, que notre Seigneur, eh bien, ne l'abandonnera pas. Notre Seigneur sera ici, présent, et il va jouer véritablement son rôle. Aussi, elle anticipe le miracle de Jésus en disant aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a une confiance immense en l'activité de notre Seigneur, en la révélation de sa propre mission. Et le miracle se réalise. Alors, mes bien chers amis, demandons à Notre-Dame d'être à son exemple plein de la grâce, plein de la charité fraternelle en nous, et que cette charité, eh bien, en nous, eh bien, soit faite de délicatesse, soit faite d'attention, soit faite de renoncement à soi-même, soit faite d'humilité, soit faite d'acceptation et de confiance. Et alors tout le programme que nous propose aujourd'hui Saint Paul de cette charité fraternelle pourra être fait parce que nous nous appuyons sur l'agir du bon Dieu, parce que nous nous appuyons sur le modèle qu'il représente, parce qu'aussi nous nous appuyons sur sa grâce qui nous est transmise par Notre-Dame, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.